Nous allons commencer. On va commencer par un petit temps de louange d'abord. Pas très long, parce qu'après il y a de quoi faire. Numéro 105 pour ceux qui ont des carnets chez eux.
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout, mais tu veux nous donner la vie. Nous embrasser par ton nom. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi, je veux chanter. Chaque instant de ma vie, danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent. Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Voici que tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies, pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.
Numéro 221. Au numéro 221.
Rendons gloire à notre Dieu.
Le numéro 129.
l'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nos tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Mais l'amour de notre Dieu, fils de lumière, celle de la terre, fait nous d'amour au cœur du monde par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À son image, il nous a fait pour nous aimer comme il nous aime. Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l'aiment. L'Esprit Saint qui nous est donné est de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie.
Voilà, alors bienvenue ce soir. Là encore, de façon virtuelle, indirecte, nous rejoignons. Donc, ce soir, pour le quatrième enseignement sur le miracle de la gratitude, alors nous avons la chance ce soir de vivre en la fête de Saint-Joseph. Alors, je voudrais simplement commencer par une prière à Saint-Joseph, qui a été, je crois, je ne suis pas très sûr, parce que je l'ai prise à l'instant sur Internet, je crois qu'elle a été écrite par Monseigneur Petit, l'archevêque de Paris, pour la circonstance que nous vivons actuellement en France et dans le monde. Saint Joseph, homme juste, par ta foi, tu as été trouvé digne de recevoir la garde des mystères du salut. Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie et écarter d'elle tout danger, tu t'es fait protecteur du Christ Seigneur dans la vulnérabilité de son enfance. Vivante image de la tendresse de Dieu, modèle d'époux et de père, tu es le gardien vigilant de l'Église, le soutien et le consolateur des familles. Nous te le demandons avec confiance. Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu en ce temps d'épidémie que nous connaissons, afin que le Seigneur écarte de nous le mal. Intercède pour ceux qui sont morts, réconforte les malades, protège et inspire ceux qui les soignent. Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix, et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères, mais demeurent ouverts à la tendresse des hommes, dans un amour de plus en plus sincère et fraternel. Saint Joseph, prie pour nous, garde-nous, protège-nous. Amen. Nous sommes invités aussi aujourd'hui, le 18 mars, donc aussi à prier pour notre évêque, puisque je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure à la messe, mais en fait c'est l'anniversaire d'ordination de notre évêque, fête aujourd'hui ses 13 ans d'épiscopat. Donc nous prions pour lui. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Alors nous avons vu les fois précédentes, les trois dernières rencontres, la première étape, nous avons vu les effets de la gratitude sur la vie, hein, ça change tout en fait, et aussi le moyen d'entrer en gratitude, comment entrer dans la gratitude. La deuxième rencontre, nous avons vu les vertus, comment développer la vertu de gratitude avec un certain nombre de rencontres. Vous trouvez sur Internet, sur le site de la paroisse, on a trois enregistrements que vous pouvez écouter chez certains Mouffets. Et désormais, vous pourrez aussi trouver le livret qui a des exercices dedans, qui permet d'entrer dans la démarche de la gratitude. Voilà, vous pourrez le télécharger, c'est en PDF, je crois. Vous pourrez le télécharger et l'imprimer chez vous. Il y en a certains, encore, qui sont imprimés dans la sacristie de l'église Saint-Louis, mais comme on ne peut pas trop circuler, donc vous pourrez le télécharger vous-même et faire les exercices. Ceux qui sont nouveaux, c'est possible par Internet, c'est possible qu'il y ait des nouveaux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à commencer quand même la démarche de la gratitude, puisque ce sont des exercices qui sont un peu valables tout le temps. Alors c'est vrai qu'il y a un ordre dans la progression pour entrer en attitude. Il faut se convaincre que c'est intéressant de rentrer en attitude, mais si déjà nous savons que nous sommes appelés au bonheur et que nous sommes appelés au bonheur dès ici-bas, eh bien nous savons que nous sommes appelés à entrer dans la gratitude. Et ça peut suffire à nous convaincre. Voilà, sur le site de la paroisse, donc vous trouvez tout ce qu'il faut avec le livret et donc les enregistrements. Voilà. Devenir, étape 4, c'est notre rencontre aujourd'hui, devenir maître dans la vertu de la gratitude. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, Pierre écrit « Frères, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. Il faut devenir de plus en plus ancré dans l'attitude de gratitude. Je suis sûr que ceux qui ont commencé le cheminement de gratitude depuis le début du carême ont progressé. Vous avez certainement fait quelques progrès, même si minimes soient-ils, c'est déjà énorme, et je vous dis bravo, il faut continuer, même si les pas sont petits, il ne faut pas s'arrêter au fait qu'on n'avance pas aussi vite qu'on pensait. Ça, je vous ai prévenu au début, le grand obstacle de la vie chrétienne et de la vie spirituelle, et donc du cheminement de la gratitude, c'est de se décourager trop facilement, et de croire trop facilement que, puisque je n'avance pas aussi vite que je le voudrais, je ne vais pas y arriver. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans la pratique de la gratitude. On a beaucoup appris à pratiquer la gratitude pour les belles choses. Dans les fois passées, on reconnaît les belles choses, y compris la nature, y compris les choses que l'on voit autour de soi. On a appris qu'il fallait noter, par exemple, les bons moments de notre journée, les noter et d'en faire mémoire, de s'en souvenir, comme dans l'Eucharistie, on fait mémoire aussi du grand salut que nous donne le mystère pascal, la mort et la résurrection de Jésus. De la même manière, nous, dans nos vies, on fait mémoire des belles choses qui nous sont données. On va voir comment vivre la gratitude dans les petites contrariétés aujourd'hui. On va voir comment faire. La prochaine fois, on verra dans les grosses contrariétés, dans les difficultés, les grandes difficultés. Ce sera la dernière étape. Premier point, devenir maître de mon état intérieur. Garder intérieurement une paix, la constance et la stabilité. Devenir maître de mon état intérieur. Vous aurez remarqué, sans doute dans vos vies, et c'est dû à plusieurs causes différentes, y compris physiologiques, que nous oscillons entre des moments un peu plus d'exaltation, où ça va plutôt bien, et des moments où ça va moins bien, un peu plus de tristesse. Or, il nous faut progressivement apaiser cet oscillement, faire en sorte que nous entrions dans une paix intérieure qui inclut l'attitude de gratitude et l'attitude de joie. Voilà. Quand on a une contrariété dans nos journées, souvent, on se laisse prendre par la contrariété, tout va mal, on perd un peu d'énergie et on abandonne ses résolutions. La tristesse arrive. Au contraire, quand j'ai une bonne nouvelle, on dit « c'est super », je suis sur un petit nuage, ça ne dure pas très longtemps, mais voilà, et on vit comme ça. Et comme ça, on oscille entre les deux. On alterne. Et ce qu'il faut, ce que la gratitude, le cheminement de la gratitude nous permet de faire, c'est progressivement de devenir maître de cet état d'âme intérieur qui, lui, est en fait victime des événements. Et donc d'entrer progressivement dans une paix, une joie intérieure qui ne fluctue pas en fonction des circonstances. Alors, peut-être pour certains, il y a un bouquin qui est un vrai best-seller, qui a été édité au moins à 140 000 exemplaires, vendu à 140 000 exemplaires, qui est le bouquin du père Jacques-Philippe, certains le connaissent sans doute, « Recherche la paix et poursuis-la ». Ce petit livre, c'est un traité sur la paix du cœur, et qui dénonce tous les défauts que nous pouvons avoir et qui nous font perdre la paix du cœur, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, soyons clairs. Ce n'est pas ça l'épreuve, c'est autre chose. La paix du cœur, nous sommes invités à la garder. Voilà. Et donc, ça peut nous aider aussi à rentrer dans la gratitude, donc je vous conseille le bouquin pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. C'est un petit livre, pas bien épais, facile. Voilà. Et puis, donc, ainsi, nous sommes invités à développer un état intérieur permanent de gratitude. Rester, quoi qu'il m'arrive, stable, posé, dans un état intérieur de gratitude et de paix. un état intérieur qui soit enraciné sur des choses qui ne fluctuent pas, qui ne bougent pas. Qui je suis, la conscience que j'ai de la valeur, que j'ai une valeur vraiment aux yeux de Dieu et aux yeux de moi-même aussi, parce que le Seigneur me demande de l'aimer. La confiance que j'ai en moi-même et la confiance que j'ai en Dieu, ça c'est stable, ça ne bouge pas, c'est une réalité. Une réalité objective allant qui va à l'encontre de mes propres sentiments parfois. Et ça, il faut prendre de plus en plus conscience de cette réalité dans nos vies. Si je vis des événements positifs, je dis super, je rends grâce au Seigneur. Si je vis des contrariétés, que je traverse des épreuves, je dis super aussi. Et je les vis avec le Seigneur. Autant dire que dans toutes les situations, je ne fluctue pas comme ça, mais ce n'est pas non plus la moyenne, le middle, entre l'exaltation, l'action de grâce et la dépression, mais on est au-dessus du niveau du milieu, on est plutôt dans une attitude sans être excessive, dans une attitude d'allégresse intérieure, au-dessus du milieu. Si j'arrive pas à me faire comprendre, je ne sais pas trop, vous me direz. En tout cas, voilà. C'est une sorte d'intermédiaire supérieur où là, on garde une certaine constance et une certaine action de grâce intérieure, quoi qu'il arrive, dans les belles choses, on rend grâce, évidemment, mais on ne s'y attache pas comme si c'était pour ça d'abord que je rends grâce. Je rends grâce parce que la vie est belle, et la vie est donnée par Dieu. Et puis, quand ça ne va pas, je me dis, eh bien, le Seigneur est là, je n'ai rien à craindre, je vis tout ça avec le Seigneur, et que les épreuves sont bien aussi. Voilà. Alors, la question que nous pouvons nous poser, est-ce que je vis des fluctuations dans ma vie? Et comment sont-elles? Combien de temps je mets à revenir dans une attitude de gratitude quand je la perds? Lorsque j'ai une mauvaise nouvelle, par exemple. Est-ce que je mets quelques minutes, une heure, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois? Voilà. Donc, pour mieux se connaître, il faut découvrir cela, prendre conscience. Par la croissance de la vertu de gratitude, travailler à mon but, qui est d'arriver désormais à diminuer le temps qui me fait perdre l'action de grâce, passer donc de mois en semaine, de semaine en jour, de jour en heure et de heure en minute, hein. Et puis aussi d'arriver à ce qu'il y ait un certain niveau de contrariété qui ne m'affecte plus, c'est-à-dire quand les petits trucs de la vie quotidienne de trois fois rien, ça ne me touche pas. Je reste tranquille. Arriver à élever mon niveau et donc en fait à augmenter ma profondeur spirituelle pour pouvoir diminuer le temps et modifier le niveau de contrariété, on va dire, qui peut me faire un peu calmer. Voilà, pour devenir maître de mon état intérieur et vivre la parole de saint Paul aux Thessaloniciens, rendez grâce en toutes circonstances. Hein, c'est un commandement que nous est demandé par la parole de Dieu. C'est-à-dire vivez la gratitude à tout moment, en toutes circonstances. C'est un chemin, une progression. Donc il y a quatre niveaux d'intégration de la vertu, de gratitude. Quatre niveaux. Je vais vous maintenant les décrire et les situer. Premier niveau. Donc vous avez tout ça, bien sûr, comme à chaque fois, hein, dans vos livrets, vous avez. Les quatre niveaux, on va les reprendre. Alors, certains d'entre vous ont déjà bien progressé. Premier niveau, c'est la gratitude. Hein. C'est quand on commence, on ne fait pas gaffe et on s'aperçoit qu'on est plutôt dans la gratitude, c'est-à-dire qu'on prend la vie et, comme on est en plus bien français, on râle plutôt. On est plutôt dans le. Non, on pourrait, ça pourrait être mieux, on est plutôt dans le. On ne se contente pas de ce qu'on a, mais au contraire, on réclame toujours davantage. Donc, l'ingratitude. Je n'ai pas de gratitude ni pour ce que j'ai, ni pour ce que je suis, ni pour ce que je vis. Je suis dans la plainte, dans l'impuissance et dans la victimisation. Je trouve qu'il m'arrive plein de choses mauvaises et je n'y suis pour rien. Je me dis, je me plains, je n'ai pas de chance. C'est de ma faute parfois, je n'y peux rien, ça ne changera jamais. Et je m'enferme dans une attitude de plainte et d'ingratitude. Ça, c'est le premier niveau. Avec le parcours de la gratitude, un certain nombre d'entre vous sont passés sans doute au deuxième niveau. Je ressens des moments de gratitude, je prends conscience. Il y a des moments de gratitude. C'est la première étape de notre parcours. De temps en temps, dans la journée ou dans la semaine, je ressens l'émotion de la gratitude. Suite à un événement positif, j'ai une bonne nouvelle, je vois la nature, une belle, de beaux événements. Et là, je prends conscience du cadeau qui m'est fait, je prends conscience de l'émotion qui m'est donnée, et je rends grâce. Mais là encore, dans ce deuxième niveau, l'expérience est ponctuelle, elle est liée à des événements extérieurs. Alors c'est bien, mais c'est un bon début, mais on peut mieux faire. Ce sont des moments à part dans l'état habituel, c'est un moment, à l'état, ce sont des moments à part dans un état habituel moyen, c'est-à-dire que de façon habituelle, je ne suis pas trop dans la gratitude, mais de temps en temps, j'y arrive. Troisième niveau, je travaille à faire grandir la vertu de gratitude. Je travaille à la faire grandir. Alors là, c'est correspond à la deuxième étape que l'on a vécue, le deuxième enseignement, où on développe la vertu. Je me connecte le plus souvent possible, parce que je sais que la vertu, c'est quand même utile. On a besoin de la grâce de Dieu, mais en même temps, la vertu, c'est un habitus bon qui se développe comme la musculation, c'est-à-dire on en fait souvent, et comme ça, on est de plus, notre volonté se fortifie, et notre attitude change, nos habitudes changent. Et donc, on se connecte souvent à l'émotion de gratitude, on fait exprès d'en faire des actes de gratitude, on fait des exercices, et donc dans le livret, vous en avez un certain nombre, on fait des efforts conscients pour revenir dans la gratitude. La gratitude est présente maintenant de façon beaucoup plus régulière dans la vie. Et enfin, là, c'est un peu là où nous en sommes, je vais avoir de la gratitude pour les bonnes choses, mais aussi dans les difficultés. Je vais franchir un palier. J'apprends à vivre la gratitude dans les petites contrariétés. Voilà. Et puis ensuite, dans les plus grandes, ce sera la prochaine fois. Petit à petit, la vertu se développe en moi. La gratitude devient comme un bon habitus. Hein. Je vous rappelle que le contraire de la vertu, c'est le vice. Hein, donc on voit bien la gravité du problème. Donc il vaut mieux développer les vertus que les vices. On est d'accord. Donc la vertu s'installe, on cherche à l'installer, on la travaille, elle s'installe progressivement. Je suis en progression. Ce n'est pas facile et ce n'est pas spontané. Ce n'est pas simplement un petit élan du cœur, trop bien, qui va durer 3 jours. Ce n'est pas un feu de paille, c'est quelque chose qu'on installe dans le fond de nous-mêmes. C'est un muscle particulier que l'on développe volontairement parce qu'on veut être musclé spirituel. Voilà. Et le quatrième niveau, auquel nous tendons tous, mais dans lequel nous pouvons encore progresser, le quatrième niveau, c'est la vertu de gratitude est installée en moi. Elle est dans ma vie. Je suis de façon habituelle dans la gratitude. Je vis une difficulté, je rends grâce au Seigneur pour cette difficulté aussi. Je la vois comme une opportunité. Je vois toujours le positif, un cadeau de Dieu. Je vois un cadeau de Dieu. Je regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et je sais que de toutes circonstances, Dieu tire profit si moi je le veux bien, si je lui permets. Donc je rends grâce en toutes choses. Voilà. Et donc je passe de la gratitude conditionnelle, c'est-à-dire la gratitude qui est liée à des événements positifs de ma vie, à une autre attitude de gratitude qui est vertueuse, une gratitude inconditionnelle, c'est-à-dire indépendante de ce qui m'arrive. Donc quel que soit ce qui m'arrive, je reste dans une attitude de reconnaissance et d'action de grâce. La gratitude devient un trait de mon caractère. Il caractérise ma personnalité comme une deuxième nature. Alors les gens peuvent vous dire dans ce cas-là, tu as bien de la chance, toi, tu vois les choses que du bon côté. Comme s'ils croyaient que vous avez un tempérament optimiste. Eh bien, pas du tout. C'est simplement la vertu qui s'est développée. Ce n'est pas votre tempérament qui est plutôt optimiste ou naïf. Non, c'est parce que vous développez cette vertu de gratitude. C'est un travail que vous avez vécu, que vous avez fait avec la grâce de Dieu. Cela devient de plus en plus facile. Ça, c'est aussi une caractéristique. Plus la vertu s'installe, plus ça devient facile et plus on est capable d'affronter des choses de plus en plus grandes, importantes et difficiles. La vertu est installée. Je n'ai plus besoin de beaucoup d'efforts pour la maintenir. Mais je peux toujours l'approfondir. Je peux l'approfondir, l'améliorer dans sa rapidité, c'est-à-dire de rester dans la gratitude, quelles que soient les circonstances. Quand il y a une épreuve, bien, rapidement, je me remets en gratitude. dans l'intensité, où je suis vraiment de plus en plus fortement dans une véritable action de grâce, et dans la largeur, c'est-à-dire je rends grâce de plus en plus pour de plus en plus de choses autour de moi, de plus en plus de réalités qui m'entourent. Et je rends grâce aussi pour les autres. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'épreuves et que tout est facile, mon ami. Hein, le chrétien, le saint, n'est pas celui qui n'a pas de difficultés, ça se saurait, et tout le monde deviendrait chrétien, mais c'est celui qui vit les épreuves différemment. Hein, c'est celui qui sait prendre les épreuves de façon ajustée et de façon différente. Et donc, il vivra bien. C'est la même chose pour le péché. Hein, le saint n'est pas celui qui ne pêche pas, mais c'est celui qui se relève vite, le plus vite possible. C'est la même chose pour l'action de grâce et la gratitude. Voilà, la question que nous pouvons nous poser, à quel niveau de gratitude je me situe, hein, sur ces quatre niveaux, quel est le progrès que j'ai à faire pour passer au niveau supérieur, hein, donc pour, la première résolution, c'est surtout jamais se décourager. Hein. On l'a déjà dit plusieurs fois. Voilà, nous allons voir maintenant les trois attitudes pour devenir des maîtres dans la vertu de la gratitude, pour vivre la gratitude même dans les difficultés. Alors, auparavant, je fais un petit point, un petit ajout, dont vous lirez, sur l'humour chrétien. Le Saint-Père François, le pape François, a dit, je ne sais plus quand, mais certains chrétiens observent un carême sans Pâques. Ils vivent toujours un peu dans la tristesse de la vie chrétienne, comme si la vie chrétienne pouvait être triste. Et puis, dans l'exhortation apostolique sur la sainteté, hein, Gaudete et exultate, joie et allégresse, le pape François, au numéro 126, nous dit ceci. Ordinairement, la joie chrétienne est accompagnée du sens de l'humour, si remarquable, par exemple chez saint Thomas More, chez saint Vincent de Paul ou saint Philippe Neri. La mauvaise humeur n'est pas signe de sainteté. Coëlette écrit « Éloigne de ton cœur le chagrin, ce que nous recevons du Seigneur afin d'en jouir. » 1 Timothée, chapitre 6. Et quelque chose est tel que parfois la tristesse brise l'ingratitude. Hein, ce que nous recevons du Seigneur afin d'en jouir est tel que parfois la tristesse frise l'ingratitude de notre part, frise le repli sur nous-mêmes, au point que nous sommes incapables de reconnaître les dons de Dieu. Dans Famille chrétienne, il y a un dossier il y a quelques années qui a été fait sur l'humour. Voilà, et je vais vous donner quelques citations. Alors, par exemple, il y a Madeleine Delbrel qui dit ceci pour exhorter les chrétiens à l'humour. Quand on sait ce que nous sommes, il serait ridicule, vraiment, de n'avoir pas dans notre amour un peu d'humour. Car nous sommes d'assez comiques personnages, mais mal disposés à rire de notre propre bouffonnerie. Donc on manque un peu d'humour sur nous-mêmes. L'humour catholique, l'humour chrétien, nous vient des Juifs. Dans le judaïsme, il y a une pratique de l'humour qui sert même à l'enseignement. Comme le salut nous vient des Juifs, l'humour nous vient aussi des Juifs. Et nous en héritons. Et ainsi, je peux raconter une petite histoire. Un rabbin, un pasteur et un prêtre sont en train de discuter à propos de jeunes tapageurs qui squattent sous le porche de l'église. Chacun propose des solutions pour s'en débarrasser. Le rabbin dit, il faut les enfumer, ou bien essayer de les effrayer en lâchant les chiens. Le pasteur dit, moi j'essaierai plutôt d'appeler la police pour les déloger. Alors le prêtre les regarde tous les deux d'un air triste et leur dit, il y a hélas un moyen beaucoup plus facile. Il suffit de les baptiser, leur faire faire leur première communion, puis leur confirmation, après on ne les verra plus à l'église. Il faut avoir un peu d'humour sur ça. Voilà. Un saint triste et un triste saint. Et ça ne fait pas envie. Si nous voulons développer notre vie chrétienne et devenir des saints, nous devons développer aussi notre humour et notre sens de l'humour. Le pape François dira aussi à la Curie il y a quelques années, ne perdons pas cet esprit joyeux, plein d'humour et même d'autodérision qui nous rend aimables, même dans les situations difficiles. Une bonne dose d'humour sain nous fait tant de bien. Alors, qu'est-ce que n'est pas l'humour ? L'humour n'est pas l'ironie. Le catéchisme catholique, au numéro 2481, dit que l'ironie est un péché, est une offense à la vérité. L'ironie qui vise à déprécier quelqu'un en le caricaturant de manière malveillante, ou en caricaturant tel ou tel aspect de son comportement. Donc, l'humour n'est pas l'ironie, donc si nous sommes sur le chemin de l'ironie, il faut arrêter tout de suite. L'humour n'est pas la moquerie non plus, parce que se moquer, c'est abaisser l'autre. Voilà. L'humour chrétien ne peut être méchant sans pour autant être mièvre ou bisounours. Par exemple, petit exemple, un jésuite et un franciscain dînent ensemble. En dessert, deux morceaux de gâteau. Le jésuite se sert en premier et prend le morceau le plus gros. Le franciscain proteste. Saint François nous a appris que nous devons prendre le morceau le plus petit. Le jésuite réplique. De quoi te plains-tu, mon frère ? C'est ce que tu as reçu. J'ai aussi ici des spectateurs pour savoir si... Voilà. Autre chose aussi sur un humour sur pareil avec le judaïsme. Dieu proposa ses dix commandements à plusieurs peuples. Tous refusèrent des préceptes aussi contraignants. Les Anglais, à cause de la deuxième, le deuxième précepte, tu ne jugeras pas. Les Français, à cause du septième, tu ne commettras pas d'adultère. Les Italiens, à cause du huitième, tu ne voleras pas, etc. Lorsqu'il arriva auprès des Juifs, ils lui demandèrent, les Juifs lui répondent à Dieu méfiant. Ça coûte combien ? Dieu répond, c'est gratuit. Alors, on prend les 10. L'humour n'est pas l'ironie ni la moquerie, l'humour commence par l'autodérision. Savoir rire de soi, toujours commencer par là, en sortant de la défensive. Pascal Hyde écrit dans un de ses livres, c'est une quasi-constante. Les saints et les grands spirituels qui ont un sens juste de l'infini ont toujours eu de l'humour. Et ils l'ont d'abord eu par rapport à eux-mêmes. Il ne faut pas se prendre au sérieux. C'est un vrai piège. L'humour permet de prendre du recul sur nous-mêmes. Alors les modèles dans ce domaine, c'est certainement, le pape François l'a évoqué dans le passage que je vous ai dit tout à l'heure, mais on pourrait prendre Saint Jean 23, le pape Jean 23, qui avait un humour étonnant. Alors je vous lis une petite histoire de Saint Jean 23. Alors qu'il était nonce à Paris, Monseigneur Roncalli, vous savez qu'il est venu en Vendée en plus, Monseigneur Roncalli, invité à un grand dîner, est assis à côté d'une élégante femme au décolleté très généreux. Au dessert, il lui offre une pomme. Devant son étonnement, il explique « Ce n'est que lorsque Ève eut mangé la pomme qu'elle s'aperçut qu'elle était nue. » À une autre femme, dont la gorge pigeonnante enserre un crucifix d'argent, qui lui demande « Monseigneur, vous avez admiré la croix ?» Monseigneur Roncalli répond « J'ai surtout vu les deux larmes. » Devenu Jean 23, il visite l'hôpital romain du Saint-Esprit. Une religieuse se présente tout émue. « Très saint père, je suis la supérieure du Saint-Esprit. » Il lui répond « Vous en avez de la chance. » Moi, je ne suis que le vicaire du Christ. Voilà. Et enfin, un diplomate nouvellement accrédité qui lui demande combien de personnes travaillent au Vatican, il lui répond « Ah, pas plus de la moitié. » Voilà. On pourrait multiplier les exemples pour Jean 23. Ne pas trop se prendre au sérieux et ne pas se prendre au sérieux soi-même, l'autodérision personnelle. Saint Thomas More est un exemple aussi d'autodérision. À sa famille, la veille de son exécution, il dira, alors qu'il allait être guillotiné, on peut avoir la tête coupée sans se porter du mal. Il dit ça à sa famille. Le lendemain, il demande à son bourreau, au pied du billot, « Pouvez-vous m'aider à monter, mon ami ? Pour redescendre, je me débrouillerai deux heures. » Et puis, le pape François, dans l'exhortation sur la sainteté, conseille cette fameuse prière de saint Thomas More, que je vais lire maintenant, que nous allons pouvoir faire ensemble. Prière pour demander l'humour. Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. Donne-moi la santé du corps. Aidez-moi à la garder au mieux. Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. Donne-moi une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir. Ne permettez pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante qui s'appelle moi. Seigneur, donnez-moi l'humour pour que je tire quelque chose de cette vie et en fasse profiter les autres. Amen. Voilà, l'humour permet de désamorcer les peurs mutuelles. Saint Pidis, par exemple, demandera qu'on arrête de l'ovationner dans la basilique Saint-Pierre en expliquant « On n'applaudit pas un domestique dans la maison de son patron. » Il y a deux dangers dans la vie. Il y a deux dangers contre l'humour. Le danger, c'est quand on prend des responsabilités. Quand on est responsable, on se sent responsable. Parce que là, on se sent sérieux, de plus en plus sérieux, et c'est un vrai piège. On s'y croit un peu, on se prend un peu la tête, on stresse aussi, et on est de plus en plus isolé. C'est un danger à démasquer pour pouvoir ne pas entrer dans cette attitude et sortir, perdre son humour et son autodérision. Le deuxième danger, c'est que ceux qui veulent respecter Dieu ont souvent la tendance d'être coincés. Et c'est un véritable obstacle à l'évangélisation. On a tous des zones de non-humour dans notre vie. Et c'est intéressant de les remarquer parce que souvent, elles révèlent nos idoles. Dans le plan divin, on peut rire de tout, mais on ne peut pas rire n'importe comment de la vérité divine révélée. Et c'est là que ne pas pouvoir rire des dogmes, ne pas dire n'importe quoi sur Dieu et sur les dogmes, c'est parce que c'est notre Dieu, c'est pas une idole, on est d'accord. Par contre, se vexer sur et ne pas avoir d'humour sur certains aspects de notre vie, de nos attachements, de nos comportements, de nos tics, ou bien, etc., de nos réussites ou de nos échecs, ça montre que nous avons quelques idoles à droite à gauche et il nous faut les démasquer. Alors, les remèdes pour trouver l'humour. Remède, je pense que le premier remède, c'est savoir lire des blagues. Apprendre à lire des blagues, acheter des bouquins dans ce sens, pour pouvoir se détendre un peu, être un peu moins sérieux. Il y a un certain nombre de livres de blagues sur les blagues chrétiennes. Alors, elles sont plus ou moins rigolotes, mais... Il y a un livre qui fait sourire, c'est le curé fait sa crise, hein, qui a eu un certain succès il y a quelques années, et qui est toujours d'actualité. Ensuite, deuxième remède, pratiquer le sourire. Hein, Mère Teresa insistait beaucoup cela pour ses sœurs, pratiquer le sourire, avoir l'ascèse du sourire. Pratiquer l'autodérision, bien sûr. Pratiquer aussi la taquinerie. Alors, la taquinerie, ça se fait dans le respect de l'autre. Mais taquiner notre frère, si ça se fait dans la charité, en vérifiant qu'il n'est pas vexé, évidemment. Parce que dans ce cas-là, on s'est un peu loupé, là. Mais c'est bien. Ça montre que nos relations, on ne le vit pas dans trop un excès de sérieux. Je prends un exemple de taquinerie. Une dame interpella un jour le curé d'Ars. « Vos sermons sont très bien, dit la dame, Mais vous prêchez un peu trop longtemps. Le curé d'As répond : Madame, ce ne sont pas les homélies qui sont longues, ce sont vos dévotions qui sont courtes. Petite taquinerie de sa part. Voilà, en conclusion, faites de l'humour, pas la tête. Ça, c'est le jingle, pas le jingle. Voilà, nous continuons maintenant. Sur vos livrets, vous trouvez les trois attitudes à vivre dans les petites contrariétés. Première attitude, relativiser les petites contrariétés. Petit niveau de gravité, c'est pas une grosse épreuve, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, donc on peut se dire facilement dans les petites contrariétés, c'est pas grave, on va pas en faire un plat. Beaucoup de petites contrariétés que nous vivons quotidiennement ne sont pas une grande gravité. Pourtant, elles suffisent souvent à nous troubler, à nous agiter et à nous inquiéter. On se laisse prendre, on se fait avoir par ces contrariétés. Elles nous prennent au piège. Une des manières de les dépasser est de les regarder autrement, en prenant de la hauteur, en prenant de la distance. Par exemple, en les replaçant dans l'ensemble de notre vie, dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité, ou bien en se disant aussi qu'un problème en pousse un autre. Ça, je vous l'ai déjà dit une autre fois, je crois. Souvent, ne vous inquiétons pas, les problèmes, vous les aurez toujours avec vous, donc les contrariétés aussi, vous en aurez toujours pour toute votre vie, donc relativisons et les choses iront bien. Il faut se dire vraiment, dans ces contrariétés, ce n'est pas grave, parce que c'est la vérité. Elles ne sont pas graves, même si on est contrarié. Par exemple, je sors dehors, j'ai oublié mon parapluie, je suis sous la pluie, c'est pas bien grave, on ne va pas en faire un plat. Alors, par contre, on peut réagir en disant « Ah, mais c'est contrarié, et râler, et dire « C'est nul, j'ai été nul, j'aurais dû y penser, j'oublie toujours. » Il faut prendre de la distance. Voilà, et donc un petit exercice qui sera proposé tout à l'heure dans ce domaine pour essayer de prendre de la distance, et l'exercice ce sera de prendre la place de notre ange gardien, de voir comment notre ange gardien regarde nos petites contrariétés. Deuxième élément pour pouvoir sortir, pour pouvoir vivre les gratitudes dans la contrariété, c'est voir les contrariétés comme une opportunité, l'opportunité de grandir. L'opportunité d'avancer, de progresser. Ça, c'est comme les échecs dans notre vie. Hein, quand on vit des échecs, on peut très bien le voir comme un truc catastrophique, ou bien on se dit, c'est une opportunité pour moi, pour grandir, je vais apprendre des choses nouvelles grâce à cet échec, et je vais pouvoir progresser. Les petites contrariétés ne sont pas là juste pour nous agacer. Elles nous sont très utiles. Elles nous servent à progresser, à me dépasser, à devenir maître de mon état intérieur. Elles sont un entraînement du point de vue de la gratitude, de la vertu de gratitude. Elles sont un entraînement pour m'exercer à la vertu de gratitude et pour ainsi aborder plus tard des difficultés plus grandes, des épreuves plus grandes. Voilà. Donc, l'exercice, c'est changer de regard, voir les contrariétés comme des occasions de s'entraîner et ne perdre aucune occasion pour s'entraîner à la gratitude. Voilà, par exemple, si vous avez votre carte bancaire ne fonctionne plus, vous pouvez très bien dire « mais c'est dramatique, je suis complètement », alors qu'on sait très bien qu'en l'espace de quelques démarches aujourd'hui par Internet, on résout tout de suite le problème de la carte bancaire. De la même manière, quand vous êtes en voiture, la voiture commence à clignoter parce qu'il faut que vous passiez chez le réparateur, et bien vous pouvez soit râler profondément, ou bien vous dire c'est bien mieux que le voyant s'allume, parce que comme ça, elle n'est pas complètement panne la voiture encore, je peux encore aller jusque chez moi et jusqu'au réparateur. Donc regardez le positif, etc. Troisième attitude, assumer vos responsabilités et faire confiance en la providence divine. Toujours deux aspects, on l'a vu déjà dans d'autres enseignements. On n'est pas responsable du tout dans notre vie. C'est Dieu qui a créé tout. C'est Dieu qui maintient notre existence. La providence existe. C'est lui aussi qui mène toutes choses à son terme. Dieu n'est pas dépassé par ce qui se passe sur terre. Dieu porte tout dans sa main. Nous l'avons déjà dit dans d'autres enseignements. Donc nous n'avons rien à craindre. Il faut nous abandonner. Tout ce qui ne dépend pas de nous, qui est l'événement, même la maladie, qui est les événements, tout ça, voilà, on prend. Alors la maladie dans le contexte actuel, c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas se la prendre volontairement, prendre des mesures de précaution. Mais de façon habituelle, voilà, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, il faut les accueillir et ne pas se révolter, ça sert à rien. On n'avance à rien avec ça. Par contre, il faut s'abandonner dans les mains de Dieu. Par contre, il y a un certain nombre de choses en nous qui viennent. Il y a un certain nombre de choses qui sont de notre responsabilité. Et là, on doit agir. Quand on sait qu'on entre dans la tristesse sans raison, ou bien pour des raisons bénignes, on doit réagir. Et sans attendre. Tout ce qui dépend de nous, on doit intervenir. Dieu nous invite à nous concentrer sur uniquement nos zones d'influence, nos capacités d'agir. Il ne nous invite pas à nous concentrer sur ce qu'on ne peut pas changer et à nous énerver là-dessus. Mais sur les domaines de notre existence où on peut agir. C'est pour ça que souvent on dit, mais avec justesse, que dans la conversion, on veut que le monde se convertisse. Et c'est vrai que c'est ce que le Seigneur veut et nous avons raison de le souhaiter. Mais la conversion commence par notre conversion. Parce que là, ce sur quoi nous pouvons agir, c'est sur notre cœur. Ça, c'est sûr. Sur le cœur du frère, je ne peux pas. Je peux proposer, mais pas agir. Par contre, je peux convertir le monde. Et donc, c'est intéressant, c'est bien de travailler justement sur ce sur quoi je peux agir. Voilà. Assumer nos responsabilités sans remettre à Dieu. Voilà, je vous dis l'acte de confiance en Dieu de Saint-Claude de la Colombière. Mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toute chose, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci, et me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Donc voilà. Donc, la confiance en la providence, ne pas se révolter sur quoi que ce soit, ça ne sert à rien. S'en remettre à Dieu sur tout ce sur quoi je ne peux pas agir. Par contre, ce sur quoi je peux agir dans la vie, agir. Et pratiquer par exemple aussi cette prière, Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà, et donc nous allons pouvoir vivre l'exercice maintenant de la gratitude. Nous allons le faire devant le Saint-Sacrement exposé. Avant que nous entrions dans cette dernière étape, je veux simplement faire des petites annonces, comme je les fais à chaque fois. Dans cette période particulière que nous vivons, je vous invite, et je l'ai dit pas demain chaque mois, je crois, je vous invite vraiment à être attentif aux plus faibles et aux plus isolés. Peut-être parmi nous certains sont isolés. N'hésitez pas à vous manifester. Vous manifester auprès de la paroisse ou auprès d'autres paroissiens pour ne pas être seul. Soyons attentifs à ça parce que ce confinement peut durer un peu et ça peut devenir difficile à la longue. Il faut déjà qu'on prenne les habitudes d'attention mutuelle. Dans le cadre de ce souci du prochain, on proposera, je pense, peut-être demain, si j'ai le temps, on proposera une proposition que Diocèse a faite pour pouvoir nous aider à nous mettre en relation et être attentifs les uns aux autres. Je vous invite à vous inscrire, de vous abonner à la newsletter de la paroisse, parce qu'on va en envoyer régulièrement pendant toute cette période. Donc vous pourrez savoir un peu ce qui se passe et surtout suivre tout ce qui est proposé. Et puis aussi, bien sûr, sur Facebook, mais vous y êtes, mais invitez d'autres à venir sur Facebook et les aider à s'y inscrire si besoin. Je vous invite, bien sûr, à faire les anciens exercices de votre livret sur la gratitude, à faire des exercices. Voilà. Sinon, à l'invitation des évêques de France, et donc notre évêque fait le relais, une lettre a été envoyée à tous les paroisses, enfin à tous les diocésains par notre évêque à l'instant, hein, il y a quelques, aujourd'hui en tout cas dans cet après-midi, qui nous invite donc en vue du 25 mars, pardon, pour la fête de l'Annonciation, à donc faire sonner les cloches à 19h30, allumer des bougies auprès de nos fenêtres. Donc, nous serons invités à le faire pour montrer la solidarité et l'attention que nous portons les uns aux autres. Et puis, sur la paroisse, nous avons proposé aussi une neuvaine spéciale pour cette période où nous prions particulièrement pour que le Seigneur intervienne pour arrêter cette épidémie et pour les gens qui souffrent, les malades et aussi les soignants. Donc, vous êtes invités à la faire. Vous la trouvez sur Facebook et vous la trouvez aussi sur le newsletter. Je pense aussi sur le site internet de la paroisse. Demain, c'est la Saint-Joseph. Alors déjà ce soir, nous sommes dans la Saint-Joseph, hein, mais demain, nous fêtons la Saint-Joseph. Il y aura deux messes proposées en direct. La première messe à midi, comme les autres jours, messe solennelle. Et puis la deuxième messe à 19h aussi. Et puis demain soir, à 20h30, donc pas d'ici, mais de chez les sœurs de la famille missionnaire Notre-Dame, hein, de leur communauté, sera donné en direct aussi un enseignement par Sœur Ludvine sur Facebook, que vous pourrez suivre, qui s'adresse normalement, parce que traditionnellement on fait le 19 mars, on fait une soirée spéciale hommes, donc ça s'adresse en priorité aux hommes, hein, c'est le rôle du père, hein, mais évidemment, cette fois-ci, ça s'est ouvert à tout le monde. Donc, mesdames, vous serez bienvenus. Au contraire, ça peut intéresser tout le monde. Voilà, prochain enseignement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera sur pratiquer la gratitude dans l'épreuve, et comme nous serons encore avancés un petit peu plus dans l'épidémie, sauf l'Irak, nous serons un peu plus dans le dur, je pense, donc nous en aurons certainement bien besoin. Donc je vous invite, je vous donne donc rendez-vous le jeudi prochain, non pas mercredi, le jeudi prochain, jeudi, pas jeudi demain, mais jeudi dans les jours, pour le dernier enseignement sur la gratitude. Voilà, maintenant nous allons faire un petit temps de prière avant de nous quitter, temps d'adoration, où nous allons faire l'exercice qui est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est le numéro 15 dans mon livret. Hein. Cet exercice, c'est prendre la place de son ange gardien, qui est assez original comme démarche.
Jésus.
le Seigneur exposé, nous rendons grâce à Dieu pour sa présence. Même si nous sommes à distance, le Seigneur est présent aussi. Il est présent dans nos cœurs, il est présent dans nos âmes, il est présent dans nos vies. Il est toujours avec nous. Devant le Seigneur, entrons dans la gratitude, dans l'action de grâce. Pensons à quelque chose qui nous a fait entrer, qui nous a fait ressentir la gratitude. Seigneur, j'ai de la gratitude pour ceci ou pour cela. Je te remercie. Imaginons maintenant que nous sommes notre ange gardien. Notre ange gardien est un petit peu au-dessus de nous, un petit peu à distance de nous, même s'il est à nos côtés. Donc il vous voit, il nous voit, il nous regarde. Et il voit les choses belles de nos vies, pour lesquelles il est lui aussi dans la gratitude, et qui nous pousse, nous, à la gratitude. Et puis, il voit aussi les choses qui nous mettent dans l'ingratitude, dans la tristesse. Mais notre ange, il voit le ciel. Il est à côté de nous, il est auprès de Dieu, il est en dessous des nuages et au-dessus des nuages. Il a de la distance. Et il regarde cette personne qui est nous-mêmes. Il regarde ce petit problème de la journée. Et lui, il voit, parce qu'il voit peut-être pas l'avenir, mais en tout cas, il voit toute notre vie. Il voit que ce n'est pas bien grave. Qu'on peut rire de ces petits problèmes, ces petits soucis. Moi, je suis l'ange gardien du Père Dominique et je regarde ses problèmes. Il a du travail, il est un peu en retard, il n'a pas répondu à certaines personnes, il a encore des mails en retard. Ça l'inquiète un peu, parce qu'il a peur de ne pas avoir le temps de bien faire, de tout faire, mais en fait, ce n'est pas si grave par rapport à plein d'autres choses. À vous aussi, quels sont les petits problèmes qui vous contrarient aujourd'hui en tant qu'ange gardien, vous regardez votre vie. Toute votre vie, vous voyez les petits problèmes et en même temps, vous pouvez les relativiser. Vous voyez que Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver et qu'en fait, par rapport à ça, il n'y a pas de vrai problème. On a quand même le salut. En comparaison à la solution de Jésus, il n'y a pas de problème. Vous êtes protégé par Jésus-Christ. Rien n'est vraiment grave. Ça va bien. En tant qu'ange gardien, vous pouvez envoyer votre paix, la paix de Dieu, et vous ressentez la paix. Seigneur, j'ai confiance en toi. Merci, Seigneur, pour ton amour. pour notre vie, parce que tu veilles sur nous. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je n'ai peur de rien. Je suis dans ta main, Seigneur. Je te remets tous mes soucis. Je suis dans la paix. Nous serons invités donc dans les jours qui viennent à faire les autres exercices du livret et à reprendre les exercices des semaines écoulées. Nous allons demander au Seigneur de nous bénir maintenant, même si nous sommes à distance. Et puis par cette bénédiction, nous demandons la bénédiction de Dieu pour la ville de La Roche, pour notre paroisse, pour la ville de La Roche. Et nous demandons aussi au Seigneur d'intervenir pour rapidement faire cesser cette épidémie. Nous le demandons aussi par l'intercession de la Vierge Marie de Saint-Joseph. À la Vierge Marie.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles,
soit le matin, soit le soir, soit à midi, soit à 19h. Donc je rappelle l'enseignement avec Sœur Ludvine, 20h30 demain soir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et puis on prie bien les uns pour les autres, et voilà, on souhaite que tout se passe bien, et que Seigneur nous aide à vivre toute cette période. À bientôt.